Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Publication des résultats provisoires des élections législatives. 477 députés, dont 64 femmes issues des 44 partis et le groupement politique ayant atteint le seuil des 1%, ont été proclamés élus sur les 500 qui doivent siéger à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. On constate qu'aucun parti ni le groupement politique n'a pu réunir la majorité absolue des 251 députés. Néanmoins, la coalition de l'Union sacrée du président élu Félix Antoine Tshisekedi est largement majoritaire avec plus de 400 députés. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est le premier parti politique de l'opposition en tête avec 18 députés. Les autres partis d'opposition sont loin derrière avec moins de 10 députés chacun. Quelle analyse faire de la nouvelle configuration politique qui se dessine au sein de l'Assemblée nationale? C'est le débat de ce soir. Et nous recevons le professeur Pierre Virgence et les politologues et professeurs dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembo en RDC. Bonsoir, professeur Pierre Virgence.
Bonsoir.
Alain Parfait Ngoulungou, il est analyste politique, chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir, Alain Parfait Ngoulungou. Voilà, apparemment il n'est pas encore là. Jeff Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Bonsoir, professeur Jeff Moudimbi.
Bonsoir et mes vœux les meilleurs à tous les auditoires, de la radio Okapi, étant donné que c'est la première fois que nous participons à cette émission depuis l'année 2024.
Merci et bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, publication dans la nuit des samedis à dimanche des résultats provisoires des élections législatives nationales du 20 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante. 477 députés, dont 64 femmes, des 44 partis et groupements politiques ayant atteint le seuil de 1% ont été proclamés élus sur les 500 qui doivent siéger à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Aucun parti ni le groupement politique n'a pu réunir la majorité des 251 députés. Néanmoins, la coalition de l'Union sacrée du président élu Félix-Antoine Tshisekedi est largement majoritaire avec plus de 400 députés. Comment donc sera configurée la nouvelle Assemblée nationale de Michel Kifindangoy?
En termes de poids politique au sein de la nouvelle Assemblée nationale, l'UDPS Tshisekedi vient en tête avec 69 députés, suivi successivement de l'UNC 36, l'AFDC 35, l'AB 26, l'ABARB 50, l'AAP, les deux ATDC avec 21 députés chacun, le MLC compte 19 députés. Tous ces partis et regroupements politiques sont membres de l'Union sacrée. Le premier parti d'opposition en tête est Ensemble pour la République de Moïse Katumbi avec 18 députés, ce qui donne à l'Union sacrée une large avance de plus de 350 députés par rapport à l'opposition actuelle pour former à elle seule le prochain gouvernement. Toutefois, étant donné qu'aucun parti n'a pu réunir la majorité à lui seul, le chef de l'État a la possibilité de nommer un informateur en vertu de l'article 78 de la Constitution afin d'identifier la nouvelle majorité au sein de laquelle sera nommé le prochain Premier ministre. Sur les 477 élus, la nouvelle Assemblée nationale compte moins de 65 femmes, soit seulement 13% des représentations féminines.
Merci à vous, Michel Kifindangoy. Professeur Pierre Virgence, je rappelle que vous êtes politologue, professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembo en RDC. Quelle analyse vous faites de cette nouvelle configuration politique qui est en train de se dessiner au sein de l'Assemblée nationale en RDC?
D'abord, on doit quand même faire référence à la façon dont la CENI a travaillé. C'est quand même la CENI qui proclame les résultats Et donc, je dirais les mêmes remarques qui avaient été faites à propos de l'élection présidentielle, hein, qui a eu lieu au même moment, bah, sont évidemment démises dans le cas d'élections législatives. Et donc, effectivement, tous les doutes sont permis sur le succès réel, je dirais, des listes soutenant Félix Tshisekedi, puisque là, on peut se dire effectivement que, vu le nombre de fraudes rapportées, eh bien, il peut y avoir des vrais doutes. Alors, autant, il n'y a peut-être pas un doute sur le fait que les partis soutenant Félix Tshisekedi ont obtenu une majorité. De là, avoir une majorité aussi écrasante que celle qui est annoncée, c'est évidemment assez douteux. Et ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose à observer, c'est de savoir si, avec cette majorité annoncée aussi écrasante, il y aura une tentative durant ce mandat de modifier des pans importants de la Constitution. Et là, effectivement, on va voir si il y aura une tentative de violer, par exemple, le fameux article 220, hein, qui empêche de modifier le nombre et la durée des mandats du président de la République.
Oui, cette majorité écrasante est de plus de 400 ans.
Eh bien, c'est très clair que là, les députés nationaux seront coincés en quelque sorte dans une discipline de parti. Hein. Ils vont devoir respecter le mot d'ordre de leur parti. On sait que ça n'a pas été le cas lors du mandat précédent et que, une politique d'arrosage financier des parlementaires élus avait modifié les votes. Ici, on se dit que l'argent de l'État étant dans les mains du président de la République, il y a de fortes chances que la discipline des partis soit effectivement respectée. Et donc, ça veut dire que les projets que le gouvernement que Félix Tshisekedi va nommer, très probablement, ils seront votés. Et donc, ça signifie aussi que le président de la République a vraiment les moyens, je dirais, d'imposer sa politique à l'ensemble du Parlement.
Oui, comme vous venez de le dire, si cette majorité suffit pour permettre au président Félix Tshisekedi d'avoir assez de marge de manœuvre pour diriger les pays, suffirait-elle aussi pour lui permettre de répondre effectivement aux aspirations de la population?
Et là, le problème n'est pas un problème de majorité parlementaire, c'est un problème d'exécution des politiques annoncées, puisqu'on sait que l'annonce de la politique de l'enseignement gratuit ou même de l'accouchement gratuit n'est pas appliquée partout dans le pays. Et là, il y a eu effectivement beaucoup d'écarts. Donc on espère que dans les autres politiques publiques qui vont être annoncées, il y aura quelque chose qui va se réaliser effectivement pour que le système se stabilise un peu. Oui.
Il y a des nouvelles figures qui viennent d'arriver. Peut-on dire que cette élection a constitué une sorte de vote sanction à l'endroit de certains députés qui étaient mal cotés par les électeurs?
Et on ne sait pas, en fait, justement, avec tous les doutes qu'il y a sur l'élection, on ne sait pas dans quelle mesure il y a eu des votes sanctions de la part des électeurs ou de la part de ceux qui donnaient des ordres à la CENI. Et donc, effectivement, là, il y a des vrais doutes sur toute une série d'élus. Et on a entendu donc les cris d'horreur qui ont été lancés quand on a annoncé la non-élection, je dirais, d'une série de gens qui se considéraient comme élus. Voilà, donc ça, c'est effectivement un vrai problème. Dans un état de droit, quand tout le monde respecte les règles, c'est plus facile, évidemment. Et ici, on observe comment ça fonctionne. Et ici, on ne sait pas s'il s'agit de sanctions de la part des électeurs ou de sanctions de la part de la CENI, sur ordre, par exemple, de la présidence de la République.
Vous parlez de ceux qui donnaient les ordres à la CENI. Vous avez, dans votre première intervention, parlé, n'est-ce pas, de la façon dont la CENI a organisé ces élections. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là?
Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de doutes se sont exprimés sur l'efficacité de la CENI. parce que il y avait des problèmes logistiques énormes dans tout le pays. Il y avait dans toute une série d'endroits des bureaux de vote qui ont continué à travailler bien au-delà de la date qui était prévue. Et donc les consignes d'ailleurs explicites du président de la CENI pour que tout le monde puisse voter correspondaient à des lacunes organisationnelles dont la CENI est responsable. Donc on peut dire que la CENI a mal organisé des élections et peut-être aussi que le désordre électoral lui a permis de faire passer comme candidat élu des gens qui en réalité n'ont pas été élus par le peuple. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas évidemment dans quelle ampleur la tricherie a eu lieu. Et là on verra au fur et à mesure quand on va pouvoir avoir tous les résultats en main. Parce que pour le moment, on a les résultats simplement circonscription par circonscription. On n'a pas encore les résultats bureau de vote par bureau de vote.
Merci Alain Parfengoulon, où est-ce que vous êtes là? Non, il n'est pas encore là. On me dit qu'il n'est pas encore là. Jeff Omodimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Et votre lecture aussi par rapport à cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale?
Bien, merci beaucoup, M. Guy Maté. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord saluer le professeur. Ma lecture est la suivante. Après la proclamation des résultats, il s'avère que il n'y a aucun parti politique qui a réussi à réaliser à lui seul la majorité absolue des sièges qu'il y a au Parlement, soit 251 sièges. Alors, mais nous nous retrouvons en face d'un parti politique qui a plus de voix que d'autres. Donc, ce qui revient à dire que nous sommes dans un système des partis politiques. Quand nous considérons le système des partis politiques, nous pouvons dire que nous sommes dans un système à parti dominant. Mais s'il y avait un parti politique qui réaliserait les suffrages, donc le nombre de sièges à la majorité absolue, on parlerait alors du système des partis à partis ultra-dominants. Alors, dans un système à partis dominants comme le nôtre, alors il s'avère que la formation du gouvernement doit tabler sur la coalition des partis. Alors, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage du journaliste de Okapi, il se dégage clairement une majorité au niveau de la coalition autour du président de la République, donc la majorité Union Sacrée, elle est déjà établie, et la conséquence c'est que le président de la République ne peut pas nommer un informateur parce que la majorité se dessine déjà, alors il revient au président de la République selon les clauses, les conventions de cette coalition-là, que l'on arrive maintenant, il lui revient donc de choisir dans cette coalition qui sera le premier ministre. Donc il n'y aura pas ici de nomination d'un informateur. Ça, je ne pense pas. Alors, en ce qui concerne la configuration maintenant du Parlement, en attendant que la Cour constitutionnelle arrive maintenant à proclamer les résultats définitifs, nous allons observer une grande complicité entre, d'une part, le Parlement ou l'Assemblée nationale et, de l'autre, le gouvernement. La complicité, il y en aura. Ce qui fait que le gouvernement, cette fois-ci, aura beaucoup plus de chances de travailler sans trop de crainte d'être est soumis à des tentations de motions de censure et les ministres aussi à des tentations de motions de méfiance. Mais j'ai horreur que la nouvelle Assemblée ne puisse pas travailler avec efficacité. Pourquoi? Parce que la plupart des candidats députés, je dis bien la plupart, pas tous, ont été financés par des membres qui vont se retrouver au niveau du gouvernement. Alors, à partir du moment où vous savez déjà que je me retrouve au Parlement à la faveur du financement de certaines têtes qui sont au gouvernement mieux dans l'exécutif, il devient difficile de faire un contrôle rigoureux de la gestion des affaires publiques dans le sens de la volonté du peuple. Donc, cette complicité fera que, c'est vrai, on puisse respecter le mot d'ordre de la coalition, mais alors, la situation serait souhaitable si le mot d'ordre va dans le sens de la réalisation des besoins fondamentaux de la population. Mais par contre, si le mot d'ordre va dans le sens de la consolidation du pouvoir de ceux qui en assurent l'exercice, alors je crains que cette nouvelle configuration nous conduise à une situation telle qu'on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul.
Voilà, il y a une l'autre aspect, c'est cette n'est-ce pas augmentation légère des femmes élues. On parle des 64 femmes. Et à votre avis, on peut attribuer cette faible augmentation à quoi?
Ok, merci beaucoup. Je pense que il y a eu des organisations qui ont joué le rôle de sensibilisation pour montrer aux gens que les femmes doivent aussi participer dans la sphère de la prise des décisions politiques. Alors, et puis n'oubliez pas aussi que on a demandé aux partis politiques de bien vouloir aussi aligner un nombre suffisant de candidatures féminines. Alors, cette sensibilisation, cette socialisation politique et aussi cette exigence-là imposée aux partis politiques peut, à mon humble avis, expliquer cette augmentation de la présence des femmes désormais au niveau de l'Assemblée nationale.
Une augmentation qui n'est pas significative, hein?
Bon, une augmentation qui n'est pas significative, c'est vrai, il s'agit d'un mandat électif. Les femmes ne doivent pas penser que c'est un gâteau qui leur sera présenté sur un plat d'or. Donc, à ce niveau, les femmes devront encore aussi se battre davantage, devront doubler d'efforts pour que, bon, avec le temps à venir, que l'on arrive aussi à une certaine parité entre les hommes et les femmes. Mais ce qui est évident, il y a aussi des préjugés très négatifs que la société congolaise développe envers les femmes qui font de la politique. On pense que les femmes qui font de la politique, d'une manière générale, ne sont pas des femmes mariées, elles se considèrent trop indépendantes, elles ne peuvent pas se soumettre à l'homme, ce sont des femmes aux mœurs légères. Alors, tous ces préjugés négatifs font que, bon, parfois on a trop de réserves pour les femmes, mais je pense avec la socialisation politique, dans les jours à venir, on comprendra que un mandat politique n'est pas que réservé aux hommes, les femmes peuvent aussi s'y plonger et garder toute leur dignité de femme.
Oui, professeur Jeff Moudimbi, beaucoup de candidats qui n'ont pas été proclamés par la CENI crient à l'injustice parce qu'ils sont convaincus, n'est-ce pas, d'avoir obtenu le nombre requis des voix qui devait leur permettre d'être considérés comme étant élus. Ne peut-on pas dire que le sort, n'est-ce pas, de ces candidats malheureux était déjà scellé, et à partir du moment où cette question des seuils, non seulement n'était pas bien cernée par beaucoup des candidats, mais aussi les modes de calcul des seuils n'a pas été transparent.
Ok, voilà pourquoi il y a des recours. Voilà pourquoi il y a des recours. Je pense que tous les candidats malheureux, s'ils ont réellement des éléments convaincants, des éléments de preuve pour introduire le recours, ils peuvent le faire au niveau des juridictions compétentes, et je pense que là où les preuves sont probantes, ils pourront être rétablis. Mais aussi, le problème que j'ai pu constater, c'est que tous les candidats ont une maladie. Et cette maladie, c'est de penser toujours à la réussite. Or, quand on s'engage dans une compétition comme celle-ci, il faut toujours s'attendre soit à une réussite, soit à un échec. Mais tous sont convaincus que non, la situation est sous contrôle. Non, nous faisons bien les choses. Et quand les résultats sont programmés, une fois que on n'a pas été élu, vite, on crie au scandale. Les mêmes qui crient au scandale, si aujourd'hui, ils étaient proclamés comme vainqueurs, ou comme élus, est-ce qu'ils allaient tenir les mêmes propos? Ils diraient carrément que la CENI a bien travaillé. Mais je comprends pourquoi on dit que non, voilà, il y a eu tricherie, on n'a pas bien calculé le seuil. C'est tout simplement parce que le processus électoral a été, et bon, s'est réalisé dans un climat d'abord de suspicion terrible, depuis la composition des animateurs, l'enrôlement des électeurs, le déroulement même de l'élection. Quand on doit trouver des gens qui détiennent le matériel de vote, même si la CENI aujourd'hui peut se déclarer et dire, bon, voilà, nous avons fait un bon travail, mais quelque part, et soyons sincères, la CENI a brillé par une certaine négligence, une certaine simplicité, qui est d'ailleurs coupable, parce que c'est elle qui est appelée à gérer tout ce matériel. Comment se fait-il que ce matériel s'est retrouvé entre les mains des individus? Quelque part, la CENI a pu faillir. Alors, elle a ouvert une brèche à partir de laquelle beaucoup de gens arrivent maintenant à contester les résultats qui ont été proclamés. Merci. Donc, la CENI a une parcelle de responsabilité dans tout ce qu'il y a ici.
Merci.
Mais nous n'avons pas d'éléments de preuve, il faudrait quand même que l'on nous dise réellement qu'il y a eu tricherie, il y a eu des gens qui ont été favorisés ou pas. Mais comme les résultats sont proclamés, et je pense que ceux qui ont été marginalisés peuvent saisir la balle au bon et introduire le recours. Et nous pensons que la justice sera réellement indépendante pour que ceux qui ont raison soient rétablis dans leur situation.
Merci Alain Parfait Ngolou, où est-ce que vous êtes là?
Je suis là, bonsoir.
Bonsoir, on n'a pas eu
bonsoir
de
bonsoir à tous mes co-débatteurs.
Merci, je rappelle que vous êtes analyste politique et chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Et vous également, hein, quelle est votre analyse par rapport à cette nouvelle configuration qui est en train de se dessiner, de se constituer au sein de l'Assemblée nationale?
Merci beaucoup pour la question, cher Guy. Je pense que avec cette nouvelle configuration qui se dessine déjà à l'horizon à l'issue des élections générales organisées en décembre 2023, l'on peut dire que nous aurons une nouvelle classe politique issue des élections que certains appellent chaotiques, des élections pour une certaine opinion. On pense que c'était vraiment des élections qui ne sont pas très loin de ce qu'on peut appeler une parodie électorale. C'est-à-dire, la CENI elle-même sait la responsabilité qu'elle porte par rapport à toutes les conséquences, à tous les impacts négatifs que nous avons aujourd'hui, suite justement à la très mal organisation sur le plan logistique, sur le plan technique de ces élections. Et donc ça a laissé une très mauvaise image dans les chefs de la population congolaise. Mais une autre opinion aussi salue cette sorte d'évolution démocratique en organisant cet énième cycle électoral, et l'on pense que c'est un pas vers beaucoup plus un avènement démocratique. Et je pense que les dépositions nous poussent à penser qu'il y a certainement des problèmes qu'il faut absolument régler si on veut établir une très belle configuration politique issue de ces votes de décembre 2023.
Alain Parfait, apparemment, vous avez allumé votre radio, hein?
Non, je peux me retirer.
Voilà,
oui, je suis très loin de la radio.
Ok, c'est bien. Alors, plus de 400 sièges pour la seule Union Sacrée. À votre avis, on peut attribuer cela à quoi?
Oui, à mon avis, je crois que c'est justement c'est une petite politicienne de vouloir justement voler tout, d'avoir à l'ensemble des sièges. C'est tout à fait normal pour la majorité qui est au pouvoir d'organiser les choses dans le sens de gagner tous les sièges. Mais ce qui est malheureux, c'est que peut-être les gens oublient que l'opposition aussi a sa place dans une démocratie. On pouvait organiser des choses de manière transparente, de manière libre, pourvu de permettre à tous les électeurs de pouvoir exprimer leurs choix de manière démocratique et libre. que de le faire de cette manière-là qui a laissé une très mauvaise image de la part des organisateurs et bien entendu de la part de la CENI qui a organisé ces élections. Et elle porte une lourde responsabilité.
Alain Parfait-Goulungou...
Il me semble aussi que... Allô, je me fais entendre, s'il vous plaît.
Oui, allez-y. Alain Parfait, est-ce que vous me suivez? Alain Parfait, est-ce que vous êtes toujours là?
Allô?
Vous êtes là? Apparemment, on ne s'entend pas. Allô, Alain Parfait. Voilà, on va essayer de régler ça. La réalisation va essayer de régler ça. Professeur Pierre Virgence, j'ai posé la même question au professeur Jeff Moudimbi. Cette question un peu complexe du seuil n'a pas scellé l'essor de certains candidats qui n'ont pas été déclarés comme étant élus?
Non, mais ça, bon, il y a, je dirais, deux problèmes. Un des problèmes, c'est que tous les gens qui se présentent comme candidats n'ont pas nécessairement tous lu ni compris la loi électorale, donc ça c'est quelque chose qui est dommage, mais ça arrive, et ça arrive dans tous les pays. Hein. Et donc là, effectivement, quand les institutions fonctionnent bien, et quand on est dans un vrai état de droit, ben les recours leur permettent de comprendre ce qui leur est arrivé. Et le problème ici, effectivement, comme viennent de le dire mes deux co-débatteurs, effectivement, c'est qu'on ne sait absolument pas l'ampleur de la triche éventuelle faite par la CENI. Donc il est fort probable, en fonction de la manière dont la CENI a fonctionné jusqu'au moment de l'élection, mais au moment de l'élection, que il y a eu une tricherie, toute une série de tricheries dans toute une série d'endroits, et c'est très difficile à ce moment-là, effectivement, de considérer a priori que les gens qui se plaignent de ne pas avoir été élus ont tort. Et donc, effectivement, moi j'encourage, comme effectivement mon collègue Moutimbou l'a signalé, j'encourage tous les candidats qui n'ont pas été élus à porter plainte de façon à ce que, au maximum, on puisse faire une lumière officielle, au moins, sur la décision qui a été prise. Parce que sinon, effectivement, on va avoir une rumeur qui va circuler encore au Congo, comme quoi ce n'est pas possible d'organiser des élections au Congo. Or, on voit que c'est possible d'organiser, que le peuple veut voter, que le peuple a voté dans la plupart des endroits en ordre, et donc ça veut dire que c'est possible d'organiser des élections au Congo, il faut encore que l'organisation elle-même soit bien faite. Et donc, moi, je pense qu'il faut effectivement encourager tous les candidats qui considèrent qu'ils n'ont pas été élus et qui considèrent qu'il y a une erreur.
Allô, professeur, apparemment, il est parti. Alain Parfengoulou, où est-ce que vous êtes là?
Oui, je vous capte très bien. Je m'excuse pour ces désagréments. En effet, je disais que, évidemment, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y a eu des problèmes de tricherie, mais on doit regarder vraiment de l'avant. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je crois que la CENI est consciente de son irresponsabilité, de tous les problèmes, notamment la tricherie, le vandalisme qu'il y a eu. C'est dû essentiellement à la très mauvaise organisation logistique. Et que maintenant, le candidat lésé ont droit de recourir auprès de la Cour constitutionnelle pour protester ces résultats. Et donc nous pensons que cela doit répondre à ces critères-là pour justement assurer une sorte de crédibilité électorale. Mais ce dont on doit saluer aussi, c'est le fait que cette élection a été marquée aussi par l'annulation pratiquement des suffrages des 82 candidats, pour la plupart venant de l'Union sacrée pour la nation. Ça, c'est un signe de maturité aussi politique qu'il faut saluer de la part de ceux qui ont organisé ces élections, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin.
Oui, et à votre avis, ça peut être quoi la différence entre cette majorité qui est en train de se former actuellement à l'Assemblée nationale et celle de la législature passée qui s'est constituée après la dissolution de la coalition FCC-CACH?
Non, moi je dirais que ça risque d'être une sorte de continuité. Hein. Pratiquement, ce sont les mêmes acteurs, bien entendu avec toutes ces mosaïques des partis politiques créés. Il me semble que si l'on continue vraiment avec cette configuration de la majorité présidentielle, ce serait dans la même logique de continuité.
Merci. On va maintenant donner l'occasion aux auditeurs de pouvoir poser leurs questions. Professeur Pierre Vigence, il y a une question d'un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo. Vous allez répondre à cette question, à cette réflexion.
Benjamin Melima Melingo, je vous appelle à partir de Kisangani dans la province de la Tchopo. Au regard de ce qui se dessine à l'Assemblée nationale de notre pays, il y a lieu de penser que la Chambre basse sera une caisse de résonance pour le pouvoir exécutif. Comment peut-on comprendre une famille politique au pouvoir s'arroge le droit d'avoir à elle seule plus ou moins 450 députés nationaux sur les 477 publiés provisoirement par la CENI? Cette Chambre du Parlement sera monocolore dans sa composition et le contrôle parlementaire sera buté à un sérieux problème au nom de la majorité parlementaire. Et pourtant, le Parlement devait être un temple de la démocratie, là où la contradiction entre les camps politiques devait primer. Malheureusement, il ne sera pas question, car l'opposition est exagérément minoritaire.
Oui, on me signale que le professeur Vigence n'est pas encore là. On n'a pas pu, n'est-ce pas, l'avoir une fois de plus. Professeur Moundimbi, vous pouvez répondre à cette réflexion, en fait réagir à cette réflexion.
Ok, merci beaucoup. Je pense que l'auditeur de Kisangani vient de rejoindre un peu ma pensée lorsque je disais que la nouvelle configuration au niveau de l'Assemblée nationale illustre très bien cette grande complicité qu'il y aura entre le gouvernement et le Parlement. Mais ici, je voudrais quand même que nous puissions comprendre une chose, que le fait pour le gouvernement d'avoir la majorité au Parlement n'est pas une tare, parce que ça dépend de la manière dont chaque parti a pu faire sa campagne. Je parle ici, toutes choses restant égales par ailleurs, j'insiste, parce que même dans le système politique américain, on voit par exemple un président républicain avec une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Et ça ne pose pas de problème. Et tout comme aussi, on peut trouver, je pense que Obama a connu cette situation, lui président démocrate, mais dans l'entretemps, il n'avait pas la majorité et à la Chambre des représentants et à la Chambre et au Sénat. Donc, à travers le monde, on arrive quand même à se retrouver devant une situation telle que un président de la République a la majorité au Parlement. Donc ce n'est pas une tare comme telle, c'est une situation tout à fait normale. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que réellement, et le gouvernement et le Parlement, si réellement il s'agit des institutions républicaines, qu'ils s'engagent à travailler dans le sens de la satisfaction des besoins de la population et des problèmes de la population et la satisfaction aux besoins de la population. C'est tout, mais c'est là que j'ai dit, si réellement la solidarité entre les deux institutions est telle qu'on veut réellement travailler dans le sens de la consolidation du pouvoir de ceux qui en assurent l'exercice, alors rien à faire, là le peuple sera déçu.
Merci.
Alors, mais ce qui est évident, je voudrais ajouter une chose, M. Guy.
Allez-y.
Ce qui est évident, dans cette situation où le Parlement est acquis à la cause du président de la République, au nom de cette complicité, le Parlement sera comme une caisse à résonance de la volonté du gouvernement. Alors, à ce moment-là, le contrôle parlementaire risquerait d'être vraiment inefficace, parce que on va se dire que nous appartenons à une même famille. Et pour parler dans le langage populaire, les lions entre eux ne se mangent pas. Mais si réellement on est dans la dynamique de servir le peuple, et je pense que ce Parlement pourrait aussi faire quelque chose, surtout lorsque on considère que la population congolaise commence à avoir une certaine maturité. Et si la CENI organise des élections vraiment libres, démocratiques et transparentes, tous ceux-là qui ont mal géré, et je pense qu'ils auront affaire à la population en 2028.
Merci Alain Papengolungu. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kirumba dans le Nord Kivu.
Maître Abner Kivero depuis Kirumba dans les Lubero et au Nord Kivu. Ces résultats provisoires ne s'écartent pas des pronostics, car déjà presque tous les leaders locaux s'étaient déjà alliés au candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Maintenant que ce dernier a une majorité parlementaire ici des élections, il n'aura pas d'excuses comme à 2018, où il accusait son allié Joseph Kabila de le bloquer avec sa majorité au Parlement. Donc, les nouveaux animateurs des différentes institutions du pays n'auront que d'autres choix que de répondre aux multiples besoins de la population sans beaucoup de justifications.
Alain Parfait Ngurungu.
Oui, la question de notre cher compatriote Albert de Kirumba me pousse à me poser aussi un certain nombre de questions avant d'y répondre. Est-ce que ces élections ont suivi la voie la meilleure pour justement procéder au choix de ces qui sont aujourd'hui évidemment des élus, mais ceux qui ont été hier candidats qui ont porté, que ce soit le président sortant ou son salangeur de l'opposition? Donc c'est ça la question. Mais comme mon prédécesseur l'a dit, il suffit pas seulement, nous ne sommes pas contre que la majorité actuelle obtienne un grand nombre de sièges. Nous sommes pour que les choses se passent de manière normale, de manière transparente, pour que les élus qui seront issus de ces scrutins reflètent justement une sorte de légitimité populaire, qu'ils portent en eux la responsabilité de pouvoir défendre la représentation nationale dans leurs chambres respectives. C'est cela le problème. Mais je crois que pour répondre à notre auditeur, nous pensons que les plus grands endettés aujourd'hui de la République, c'est l'actuel chef de l'État élu, parce qu'il porte en lui seul plus de 70% des suffrages de ces élections présidentielles, et donc lui seul aura des comptes à rendre à la population congolaise si et seulement si ce vote se serait passé de manière transparente et de manière libre. Alors là, il a la grande responsabilité de pouvoir, à travers une dynamique politique, mobiliser toutes les institutions de la République pour travailler dans le sens de donner des réponses rapides au pays, des réponses qui tendent dans le sens de réduire la pauvreté, d'améliorer les conditions sociales des fonctionnaires, de réhabiliter les routes agricoles ici et là, donc de promouvoir vraiment le développement de la République démocratique du Congo. Et alors là, il n'y a plus besoin de pouvoir tourner les pouces, mais il faut être conséquent par rapport à cette énorme responsabilité que le président élu a entre ses mains actuellement.
Professeur Pierre Vigence, est-ce que vous êtes là?
Oui.
Voilà, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bounia, en Ituri.
Moi, c'est Justin Calabia, depuis la ville de Bounia, province de l'Ituri. Bien évidemment, la législature du deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, doit être mise, en tout cas, sur les signaux de développement de la population, y compris l'application de la justice distributive du revenu national. Pour ce faire, la République démocratique du Congo, à travers ce quinquennat, doit booster le développement socio-économique du pays.
Allô, professeur, votre réaction?
Oui, tout à fait. Oui. Ben, je pense qu'effectivement, là-dessus, tout le monde est d'accord, je dirais. Hein. Tous les responsables politiques, quelle que soit d'ailleurs la nature de leur mandat, doivent en principe tout faire pour faciliter le développement du pays, faciliter la vie de la population, et effectivement, doivent mener des politiques publiques qui permettent l'amélioration de la vie de la population. Ça me paraît absolument évident. Et le fait d'être issu du suffrage universel, je dirais, grandit encore l'élu et ça lui impose encore plus de devoirs. Et donc, effectivement, une reddition de compte à la fin du mandat de la part de ceux qui pourront se représenter.
Oui,
effectivement, c'est très important.
Oui, une soixantaine de sièges appartenant au seul parti UDPS, cela suffirait-il pour que le prochain Premier ministre puisse être issu de ces partis politiques?
Ça dépend en fait des équilibres à l'intérieur de la majorité parlementaire, hein. Donc, puisque donc on évoquait en début d'émission l'article 78 de la Constitution qui dit que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Et donc, il y a déjà dans l'Union sacrée déjà une majorité, et donc effectivement, c'est, je dirais, aux responsables de ces différents partis de se mettre d'accord pour voir si c'est le plus grand parti qui va obtenir le siège de Premier ministre, ou bien, puisque c'est déjà l'UDPS qui a la présidence de la République, que le poste de Premier ministre serait attribué à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une question de négociation politique, et il n'y a pas d'obligation juridique, évidemment, à attribuer le poste de Premier ministre à l'un ou à l'autre. C'est une question de pure négociation entre des gens qui vont former un gouvernement dans les jours et les semaines qui viennent.
Oui, nous sommes presque à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Professeur Diop Moudimbi, quelles leçons peut-on tirer de ces élections législatives, n'est-ce pas, qui sont en train d'aboutir, n'est-ce pas, cette nouvelle majorité parlementaire?
Bien, moi, je pense que le mieux à faire, c'est de permettre au président de la République, qui a une grande responsabilité, de réaliser toutes ses promesses. Souvenez-vous qu'il est la seule autorité qui a été élue par l'ensemble des citoyens congolais. À ce moment, il importe que le directeur de cabinet qu'il va se choisir, ses conseillers, le gouvernement, travaillent dans le sens de la réalisation des promesses que le président a faites à la population congolaise. Lors de la campagne, et ses opposants l'ont attaqué beaucoup plus sur les promesses non réalisées. Je pense qu'il doit ouvrir l'œil et les grands de manière à ce que toutes ces promesses soient réalisées. Faute de cela, et si toute chose reste égale par ailleurs, son dauphin en 2028 subira le même sort que le dauphin de Joseph Kabila. Sinon, je souhaite vraiment plein succès au président de la République et au Parlement de travailler dans le sens de la satisfaction des besoins de la population.
Alain Parfait-Ngoulougou, pour vous aussi les leçons à tirer par rapport à ces élections. Dans votre première intervention, vous évoquiez des questions qu'il faut régler. Quelles sont ces questions qu'il faut régler?
Oui, merci beaucoup. Pour moi, je trouve que c'est le second mandat du président actuel doit régler des problèmes, notamment des problèmes de la pauvreté, des problèmes de l'insécurité à l'Est, mais aussi ce serait une opportunité de pouvoir permettre au régime actuel de pouvoir parachever le programme de développement local 145 territoires, qui a été une amorce des initiatives sociales de très belle qualité et qui a fait écho partout sur l'ensemble des 145 territoires, et que ce serait vraiment le moment de continuer dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut noter, ça, c'est la leçon que j'ai tirée, il y a une forte participation politique, et cela démontre clairement cet élan démocratique, ces besoins que nous avons d'aller dans le sens de consolider nos acquis à l'issue de ces trois scrutins électoraux que nous avons organisés. Et je crois que le chef de l'État doit continuer à rassurer la population congolaise pour la mise en place d'institutions démocratiques et citoyennes afin d'assurer l'organisation des très belles élections très prochainement. J'aimerais souligner pour finir qu'il faut absolument aller dans le sens aussi de lutter contre la fraude et la corruption. Je crois que la frappe orchestrée aux 82 invalidés par la CENI est un spécimen, est un modèle qui démontre clairement qu'il va continuer dans cette allure-là. Voilà pourquoi nous le souhaitons plein succès et réussite durant ces mandats.
Professeur Pierre Vigence, la leçon ou les leçons à tirer par rapport à ces élections législatives?
Par rapport à ces élections législatives, c'est que on a vu que le peuple congolais veut voter, on a vu que le peuple congolais dans sa majorité a voté dans l'ordre, dans le respect des règles, et donc c'est déjà un très grand acquis, je dirais, parce que le peuple congolais a montré l'exemple, et on peut espérer effectivement que les dirigeants congolais vont suivre l'exemple que le peuple leur montre.
Professeur, plus la majorité est importante, plus il y a des ambitions. Et si ces ambitions ne sont pas bien gérées, ça peut créer des frustrations. Vous ne pensez pas que cette stratégie de faire à ce qu'on puisse avoir une majorité écrasante soit aussi une faiblesse dans ce sens que ça peut aussi être une majorité volatile?
Mais là, on a vu que lors du précédent mandat, Félix Tshisekedi a réussi à retourner une majorité parlementaire qui était pourtant acquise Joseph Kabila en distribuant des billets à tous les gens qui en avaient envie. Et donc, effectivement, ici, il a les moyens, je dirais, de mener la politique qu'il a envie de mener. Mais c'est vrai qu'il va se retrouver confronté à des gens qui ont des ambitions, pour certains en tout cas, énormes. Et donc, il va devoir effectivement gérer l'appétit glouton, je dirais, de ces, comment est-ce qu'on disait, des crocodiles, c'est ça, qui sont en train de maintenant de vouloir profiter effectivement du système qui a été mis en place.
Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Professeur Pierre Virgence, professeur Jeff Mudimbi, Alain Parfait Ngulungu. Merci aussi aux auditeurs internautes d'avoir, n'est-ce pas, accepté de suivre cette émission. Merci aussi à Dona Madimba qui l'a réalisé, et à Polydor Basunga qui était à la technique avec la participation de Jonathan Fuanani, Clément Chimanga et Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.